Bonsoir ou rebonsoir à tous. Bienvenue dans la deuxième heure du nouveau rendez-vous. Ce soir, c'est The Time Machine. Le programme est clair. Electronica, ça sonne un peu comme le nom d'une muse. Eh bien, c'est celle qui anime notre invité depuis ses débuts dans la musique. Jean-Michel Jarre, bonsoir.
Bonsoir.
Electronica donc, un album qui réunit autour de vous une famille élargie de 15 artistes de générations et d'univers différents. Un album qui ne manque pas d'oxygène et c'est la raison pour laquelle vous aurez rendez-vous à 22h45 avec un astrophysicien, Christophe Galfard. Jean-Michel Jarre, Electronica est un projet en deux temps. Vous signez d'abord le premier volet, The Time Machine, qui dessine une famille recomposée de la scène électro. C'est généreux, mais nos réalisateurs, Coy Nguyen et Sonia Leglen, ont choisi eux de se concentrer sur vous en plus d'une minute, mais en moins de deux.
Bachelier à 16 ans, exact. Licencié S-Lettres, musicien, compositeur. Deux œuvres maîtresses. La première oxygène.
Je pense que la première personne qui l'a entendu, effectivement, c'était Charlotte. Et donc, je fais ça totalement, du coup, dans ma cuisine, de manière totalement underground, si je puis dire.
La légende veut que ça soit passé comme ça. Est-ce que c'est une réalité?
Oui, c'est vrai. Et elle me dit, écoute, je pense que c'est tellement à part que ce sera tout ou rien. Ou ça ne marchera pas du tout, ou ça va être quelque chose d'incroyable.
Et je me suis dit, il a fait sortir la musique électroacoustique de son laboratoire.
Oui, je pourrais compléter que je les ai fait sortir des murs de cette maison. Puisqu'en fait, la musique électroacoustique est née ici, à Radio France, sous la direction de Pierre Schaeffer. J'arrive là-dedans et je tombe absolument amoureux de l'idée de quelqu'un qui vous parle de musique non pas en termes de notes et de solfège, mais en termes de son.
Il s'agit de la Chine. Bon, évidemment, c'est une formidable première pour moi et pour n'importe quel musicien occidental. Ça va être la première fois vraiment qu'un musicien occidental est officiellement invité là-bas pour jouer sa propre musique. Même, j'ai même reçu une lettre d'un Chinois m'appelant le grand maître de l'électricité. Alors,
Channel 2, KPRC-TV, Houston.
Well, Houston's skyline is about to be transformed into a backdrop for the biggest laser light show ever seen in America. 4 seconds.
Héros moderne. Et forcément de l'électronique.
C'est la première fois où finalement on travaille sur la matière sonore comme les peintres au moment de l'abstraction lyrique, on en parlera peut-être, comme Soulages, comme Jackson Pollock, etc., qui travaillent sur la matière vivante, bah, finalement on travaille sur les fréquences.
Et forcément de l'électronique.
La musique n'est pas seulement faite de notes, mais elle est faite de sons. Et que la différence entre un bruit et un son musical, c'est finalement le geste du musicien, le geste de l'artiste.
Jean-Michel Jarre, on vous entendait tout à l'heure en République populaire de Chine en 81. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu des pays qui ont refusé votre musique? Est-ce que votre musique a été parfois interdite de séjour dans des pays?
Oui, c'était le cas en Union soviétique, en Russie, c'était étrange. Je l'ai su d'ailleurs bien après, je l'ai su après la chute du mur. Parce qu'en général, la musique à ce moment-là qui était interdite, c'était surtout souvent à cause des paroles.
Oui, c'est ça.
Et donc on pouvait se demander pourquoi une musique instrumentale pourrait être interdite. Et en fait, ils m'ont expliqué, les Russes, que c'était en fait lié à un sentiment d'évasion ou de liberté, cette musique, et que donc elle était fortement déconseillée et interdite. Elle a été interdite pendant plusieurs années, sans, je ne savais pas du tout.
Il était aussi question des méga-concerts qui ont fait votre réputation déjà à la toute fin des années 70. Il y avait eu la Concorde en 79, 1 million de personnes, 1,5 million à Houston en 86, 2,5 millions à la Défense en 90, les pyramides de Gizeh. Comment vous regardez aujourd'hui cette période?
Ben, je le regarde comme si c'était un petit peu, si c'était quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, tout ça est arrivé sans du tout que je le contrôle, en fait. J'ai fait un concert qui était tout à fait expérimental à la place de la Concorde. Il y a 1 million de personnes qui sont venues. J'ai mis un an à m'en remettre, en réalité, parce que c'était, et je pense que ça correspondait aussi à une époque qui était aussi lié à un certain appétit du futur, à une certaine vision, à une certaine fascination aussi pour la technologie, à une fascination aussi, à l'envie aussi de se retrouver ensemble. C'était bien avant les festivals, bien avant. Et c'est vrai que c'était déjà l'époque où on ne pouvait entendre la musique n'importe où, dans sa voiture ou ailleurs, et qu'on avait envie de la partager d'une autre manière et de venir aussi. On avait sans doute aussi une attente. Enfin, c'est ce que je pense, une attente visuelle d'une forme de musique qui la demandait, puisque la musique électronique, la différence des instruments acoustiques comme la guitare ou le violon, les instruments acoustiques qui sont des instruments de jeu, qui ont été développés pour le jeu et pour le partage, sur lequel on a mis des micros plus tard pour pouvoir les enregistrer, notamment à France Inter ou ailleurs. Les instruments électroniques sont des instruments qui ont été développés dans les laboratoires et on a voulu les mettre sur scène après. Donc c'est vrai que de rester sur scène 2 heures derrière son laptop ou autre, c'est pas le truc le plus excitant du monde. Donc c'est aussi ça que j'ai eu envie de raconter, de développer dans les concerts que j'ai commencé à faire à cette époque-là.
1,5 million à Houston. Est-ce que les autorités à l'époque avaient pris toute la mesure de ce que ça pouvait représenter, même en termes de sécurité? Enfin, 1,5 million à Houston pour un concert. Qu'est-ce qui se passe? Les autoroutes sont bloquées?
Oui, c'est vrai que c'était l'autoroute, le Federal State, là, a été bloquée pendant, je sais pas, une journée. Mais en fait, ça a été des concerts qui se sont hypertrophiés par le fait qu'il y a eu à chaque fois des choses qui, là, à Houston, enfin, ça serait long de rentrer dans le détail ce soir, mais en fait, il y avait la NASA qui, là, pour la première fois, a décidé de s'impliquer dans un concert, une manifestation culturelle. Et en fait, l'idée était qu'un astronaute joue dans l'espace en direct depuis la scène, qui était une idée de la NASA. Donc je me suis retrouvé à une table comme ici là ce soir, avec,
comme dans le studio,
John Glenn,
une table
avec
ronde.
Les astronautes, avec comme ça, donc ce qui était déjà totalement surréaliste. Et puis il y a eu plein d'idées qui ont été émises, dont celle que cet astronaute, qui est devenu un ami très rapidement, Ron McNair, qui est un très bon saxophoniste, puis jouait dans l'espace live pendant qu'on j'étais sur scène. Et puis c'était Challenger, ça a été la tragédie de Challenger, qui a explosé au décollage, et donc j'ai voulu tout annuler, les concerts. Finalement, les astronautes m'ont appelé en disant il faut que tu le fasses aussi pour ça, et c'est devenu aussi quelque chose qui a dépassé même le stade du concert, qui reste d'ailleurs le concert qui a attiré effectivement le plus grand nombre de spectateurs, même si je pense pas que ça soit un critère de quelque manière que ce soit. Mais voilà, donc à chaque fois il y a eu des choses qui, et puis cette réputation en fait m'a un peu précédé. La preuve, c'est qu'on en parle encore ce soir.
Et qu'effectivement c'est
quelque chose qui, après, je n'ai jamais initié aucun de ces concerts. C'est toujours des choses qui m'ont été proposées. Et comme un sale gosse, c'est vrai, quand on vous propose de jouer dans les pyramides, vous pouvez pas dire non.
La musique a existé de tout temps, même avant le langage parlé. Le premier instrument de musique, c'est ça. Ensuite, on a très vite codifié les sons pour arriver aux instruments traditionnels. Le piano est un computer mécanique. Quand je frappe sur une note, je sélectionne un marteau qui, tapant sur une corde, émet un son déterminé. La guitare électrique a une prise de courant. Elle possède un son différent et nécessite une autre technique. Elle nous est devenue, elle aussi, familière. Le synthétiseur, lui, n'a rien à voir avec les instruments précédents. Il est fait de composants électroniques et non pas de composants mécaniques. Il n'a pas de son déterminé, les sons restants à inventer. Et tout peut arriver. La musique doit s'adresser au plus grand nombre. Je suis contre tout élitisme. La musique ne doit pas être un objet de contemplation, ni une langue morte.
Vous aviez un côté très professeur, Jean-Michel Jarre,
oui,
le 7 novembre 77.
Ah, mais c'est incroyable. On disait là juste hors micro que j'avais l'impression d'entendre, tu sais, les commentaires dans les actualités Gaumont en noir et blanc.
À l'époque, oui.
Et j'étais donc très formaté maison ici, hein, très formaté. Je parle pas d'émissions ce soir, bien entendu, mais c'est vrai que Schaeffer m'a marqué beaucoup plus que
Pierre Schaeffer ici,
que je pensais,
donc,
oui, exactement.
De France,
ouais. Oui, j'en profite d'ailleurs pour dire d'un mot, c'est qu'effectivement, moi, je suis un enfant de cette maison. Je le disais déjà il y a 30 ans et je le redis encore aujourd'hui avec force, c'est que cet album Electronica, je ne serais pas passé par ici et par Pierre Schaeffer, qui a tout inventé en fait, quoi, qui est vraiment notre père et grand-père à tous sur le plan de la musique électronique et électroacoustique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est venu ici. et qui à la fois avait le côté extrêmement dogmatique, donc
d'où le son qu'on vient d'entendre.
Qu'on vient d'entendre, et en même temps c'était les Shadok, puisque c'est le père des Shadok, le créateur, des, non pas le créateur, mais celui qui a
de la composition musicale,
et qui justifiait d'ailleurs son budget, qui était injustifiable aux yeux du patron de ces lieux de l'époque, année après année, simplement par le succès des Shadok, qui l'a beaucoup servi, et qui du coup m'a beaucoup servi aussi.
Aujourd'hui, Jean-Michel Jarre, vous signez un nouvel album, Electronica One, The Time Machine, sous le label Columbia Sony. C'est le premier volume d'un projet musical qui aura un second volet en avril prochain. 16 titres pour 15 collaborations. Ça dessine donc un paysage panoramique d'une scène électro avec des musiciens de la jeune génération, Little Boots ou M83, les pionniers, Tangerine Dream, des icônes, Laurie Anderson, Pete Townshend, ex-membre du groupe rock Les Who. D'ailleurs, à ce titre, l'apport de Pete Townshend à la musique électro, c'est quoi?
Alors Pete Townshend, c'est pas l'ex, il est toujours le leader des Who, puisqu'il vient de terminer une tournée cette année là, il y a quelques semaines. En fait, pour moi, il était très haut dans ma liste de souhaits de collaboration, parce que c'est celui qui a introduit le synthé et les séquenceurs dans le rock, avec des morceaux comme Baby Bob O'Reilly ou des albums comme Who's Next. C'est aussi le créateur de l'opéra rock, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu toujours repousser les frontières de la performance musicale et juste d'enchaîner des chansons, mais d'avoir une ambition différente sur scène. Donc il y avait beaucoup de points communs et j'étais absolument ravi de travailler avec lui. Et en fait, on a fait un morceau qui est beaucoup plus long, qui va sortir, je crois, juste après Noël, et qui s'appelle Travelator. Il y a seulement la partie 2 dans l'album, parce que sinon c'était un petit peu trop long dans l'album, qui est déjà long.
Bref, vous avez travaillé cet album en fonction de l'univers de chacun de vos invités, comme une sorte d'exercice de style. On écoute La Seule Femme.
Touch me. Do not leave the building.
Laurie Anderson, que vous retrouvez, parce que c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, il y avait eu Zoulouk en 84, Métamorphose en 2000. Vous aimiez peu la voix avant, par le passé, elle était peu mise en avant. À partir de quand ça a changé?
Non, j'ai toujours aimé la voix, à tel point même que j'ai fait quand même pas mal de textes aussi pour des chansons, simplement, c'est drôle comme depuis quelques années, d'ailleurs depuis que la radio existe, on a tendance à penser que la musique c'est de la chanson et que le reste serait satellitaire par rapport à un genre majeur que serait la chanson. J'adore la chanson, mais la musique, c'est pas que la musique chantée, c'est aussi la musique instrumentale.
Quelle idée de texte pour elle, puisque chaque fois vous composez, vous écrivez là pour un artiste. Qu'est-ce qu'il fallait inventer comme scénario pour Laurie Anderson?
Alors pour Laurie, en fait, j'ai aussi fait la musique, mais j'ai aussi écrit le texte. Et en fait, on est parti de cette idée de un des thèmes récurrents de l'album 1 et de l'album 2 d'Electronica, c'est le rapport aussi qu'on a à la technologie, qui est à la fois pour nous tous, les gens du monde de la musique électronique, un rapport de geek et de nerd, un rapport assez jubilatoire, mais il y a aussi le côté sombre de la force, je dirais, par rapport à la technologie, et notamment le fait que c'est le sujet de cette chanson avec Laurie Anderson, qui est le fait que beaucoup de gens passent plus de temps à caresser leur smartphone que leur propre partenaire. Et donc on s'est dit, ça serait amusant de faire une chanson qui serait une sorte de chanson d'amour un peu sombre entre un smartphone et un humain. Et évidemment, Laurie était parfaite elle est parfaite comme humaine d'ailleurs, hein,
mais elle est parfaite comme
smartphone.
Alors en parlant de technologie, il y a un nom qui revient dans les entretiens que j'ai pu lire, c'est celui d'un résistant, Edward Snowden. On écoute un extrait de Citizen Four, c'est le film que lui a consacré Laura Poitras.
On a assisté à un refroidissement de ce modèle, avec aujourd'hui des gens qui s'autocensurent et plaisantent même sur l'idée de finir sur la liste. Les gens s'attendent à être surveillés. Beaucoup font attention à ce qu'ils tapent dans leur moteur de recherche, car ça laisse des traces. Ça restreint les limites de leur exploration intellectuelle. Je suis prêt à risquer l'emprisonnement ou toute autre chose plutôt que de voir entraver ma liberté intellectuelle et celle des gens autour de moi, dont je me soucie autant que de moi-même.
Qu'est-ce que peut représenter Edward Snowden pour le musicien que vous êtes, Jean-Michel Jarre ?
Edward Snowden, quand on parle justement de ce rapport ambigu qu'on a avec la technologie d'aujourd'hui, eh bien, la technologie est neutre, mais ça dépend ce qu'on en fait. C'est un petit peu comme Oppenheimer et Einstein quand ils ont découvert la fission de l'atome. On peut faire des choses formidables sur le plan de la biologie ou de la médecine, mais on peut aussi faire la bombe atomique. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe. C'est ce que Edward Snowden m'a beaucoup beaucoup touché. Parce que j'ai une mère qui était une grande résistante et qui s'est engagée en 41
France
Peugeot et qui a été pris trois fois par les Allemands, qui est allé dans les camps et qui en a survécu heureusement, sinon d'ailleurs je ne serais pas au micro ce soir. Et en fait elle avait le même âge que Edward Snowden quand il a commencé. Elle m'a élevé avec cette idée du fait que quand la société génère des principes et des choses inacceptables, il faut se lever. Et je pense qu'Edward Snowden est un vrai héros moderne parce qu'il se lève pas pour dire stop, mais pour dire attention. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et je pense que la fragilité, comme le disait ma mère, la ligne entre le traître et le héros est extrêmement fragile. Et ça dépend évidemment de quel côté on se place.
Votre mère vous a précisément raconté son histoire ?
Oui, bien sûr, oui. Elle n'aimait pas beaucoup en parler, comme beaucoup de gens qui ont réellement fait de la résistance, bien sûr, et ça a beaucoup marqué. Elle a à une époque où c'était pas tellement, tellement courant, elle m'a appris très tôt à faire la différence entre un peuple et une idéologie, et entre notamment par exemple les nazis et les Allemands. Et d'ailleurs, forcé à apprendre l'allemand plus ou moins, j'aurais préféré apprendre l'espagnol, ça me servirait plus peut-être aujourd'hui avec tout l'affection que j'ai pour Angela Merkel par ailleurs.
On va écouter d'autres extraits dans quelques instants, mais on ne va pas écouter que des extraits d'Electronica. Tout de suite, c'est parti, c'est Glory. Glory, un extrait de l'album Electronica de Jean-Michel Jarre. C'est l'invité du nouveau rendez-vous et vous êtes bien sur France Inter. Qu'est-ce qui vous amène du côté de M83, puisque c'est lui que l'on entend avec vous sur cet extrait, sur ce titre plutôt.
M83, comme son nom l'indique, il est français, puisque ouais. 83 pour le Var, c'est un Varois.
Anthony Gonzalez,
exactement.
Le frère du cinéaste, ou le contraire.
Exactement. Et c'est quelqu'un qu'on aime bien, je pense ici d'ailleurs, ouais. à France Inter, et que j'aime beaucoup, et que j'ai découvert son premier album il y a longtemps, et immédiatement j'étais fasciné par ce son instantanément reconnaissable. D'ailleurs, je pense que tous les gens avec qui j'ai eu envie de travailler, avec lesquels j'ai eu la chance de travailler pour cet album, ont tous un son instantanément reconnaissable. M83 est quelqu'un qui a on a en commun cette idée que ce qu'il y a de plus important sans doute dans la musique, c'est la mélodie. Enfin, en tout cas, c'est une des choses essentielles qu'on a quelquefois un peu perdu de vue. Et M83 a aussi quelque chose qu'on a, je pense, en commun avec Moby, avec finalement pas mal de collaborateurs sur ce projet. C'est ce mélange entre l'innocence d'une mélodie assez simple qui cache derrière une sorte de mélancolie souterraine. Et c'est ça qui me touche beaucoup chez lui.
Alors, en parlant de mélodie, de mélancolie souterraine, vous continuez de travailler avec Christophe, parce qu'il y avait eu la grande époque de Paradis Perdu qui a été repris par Christine and the Queens. Il y a eu l'époque des mots bleus. Aujourd'hui, vous en êtes où avec Christophe?
Parce que c'est des secrets de polichinelle, tout ça, on se voit dimanche d'ailleurs, parce qu'on doit terminer un morceau qui sera sur le deuxième album.
Ah, sur votre deuxième
album.
Sur mon album,
oui. Voilà. D'accord. Et puis on travaille éventuellement aussi sur le sien. Et donc on a pas mal de projets ensemble de retrouvailles, en tout cas. Enfin, on s'était déjà retrouvés depuis un petit moment. Et là, je suis très très heureux qu'il participe à ce projet, parce que je trouve que Christophe aussi, au-delà de l'aura qu'il a et de la reconnaissance qu'il a en France, ça serait bien aussi qu'il le soit aussi. À l'extérieur des frontières. Donc, j'en dis pas plus, mais on travaille sur un projet assez original.
Parce que je me demande qu'est-ce que vous avez pu lui écrire, puisque le principe de cet album, c'est d'écrire sur mesure, oui. par rapport à l'univers.
Ce que j'ai fait de manière assez systématique pour tous les morceaux, c'est qu'en fait, j'ai composé en fonction des gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc, j'ai composé en fonction de Christophe. Il a posé sa voix dessus, et puis j'ai écrit un texte en anglais, voilà, je vous le dis parce que je trouvais que c'était original et différent, et puis c'est venu comme ça. Donc voilà, on va enregistrer ça dimanche. Je sais pas encore d'ailleurs si ça sortira, mais enfin en tout cas, on va essayer de l'enregistrer dimanche et on verra.
Tout de suite on écoute avec Moby ce que ça donne. Marion a eu une fulgurance pendant l'extrait.
Bien sûr, toujours. Je pensais que la voix de Moby m'a fait penser à celle de David Bowie.
C'est très drôle que vous disiez ça, parce que en fait, quand j'ai travaillé, on a travaillé ensemble dans son studio à Los Angeles. Puis moi, j'ai travaillé ensuite, j'ai terminé, ce qui était un peu le cas pour tous les, puisque j'ai eu la chance que tout le monde me donne le final cut, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait de terminer les morceaux comme je l'entendais, puisque finalement c'est mon album. Et j'avais ce fantasme avec lui d'entendre sa voix d'une certaine manière. Et donc c'est ce qu'on vient d'entendre. Et quand il a entendu le résultat, il m'a dit « Ah là, dis donc, c'est incroyable, je chante comme David Bowie. » Donc voilà. Donc, elle a la même que Moby, ouais. Ce qui est pas mal.
Alors l'album, véritablement, est un exercice de style, des compositions en lien avec les musiciens que vous avez invités. Alors je vous propose, Jean-Michel Jarre, l'équivalent, mais sous forme de questionnaire. Par exemple, la musique que vous associez à votre mère, France Peugeot, qui était résistante.
Chet Baker.
Donc du jazz.
Oui. parce que je voulais que je développe.
Ah ben, développer, oui.
En fait, ma mère, à la sortie des camps, donc, ce dont on parlait tout à l'heure, une femme qui est devenue sa meilleure amie, a ouvert un club de jazz qui s'appelait le Chat qui pêche, rue de la Huchette, qui était le club légendaire du jazz moderne après la guerre. Et elle venait visiter son ami, sa copine, le dimanche, et moi j'étais le petit gosse qui traînait dans la cave comme ça. Et là il y avait des gens comme Don Cherry, John Coltrane, Archie Shepp, Chet Baker, je savais pas du tout qui c'était.
Que vous avez côtoyé donc à l'époque.
Et donc bah oui, j'étais le petit gosse qui traînait là, donc les gars s'entraînaient, ils partaient souvent dans les toilettes faire des choses que j'ai compris plus tard. Voilà. Et puis pour l'anniversaire de mes 8 ans, Chet Baker m'a assis sur le piano droit et a joué pour moi pendant 5 minutes pour mon anniversaire. Et c'est quelque chose que, à chaque fois que j'y pense, je ressens toujours le souffle de l'air de la trompette, de l'instrument sur ma poitrine. Et c'est certainement une des premières émotions organiques, physiques, que j'ai eues sur le plan du son. Et je pense que c'est toutes ces petites choses qui vous arrivent dans la vie qui vous font aller dans un chemin plutôt que dans un autre. Et je pense que c'est pas du tout éloigné de la rencontre que j'ai eue avec Schaeffer plus tard.
Oui, parce qu'en fait, dès le départ, très vite, au départ, il y a une formation classique, mais le jazz est arrivé assez vite pour vous, Jean-Michel Jarre. Donc, ce serait dû à cette période-là.
Je pense, oui. Je pense, bah oui, vous savez, c'est des choses qui vous marquent au fer rouge, les souvenirs d'enfance. Et Chet Baker, pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust.
Alors, la musique que vous associez maintenant à votre grand-père, inventeur de la première table de mixage pour la radio française, et du Tepaz. Ce serait quoi, la musique que vous associez à lui?
Alors, ce serait forcément un 45 tours en mono, puisque mon grand-père était inventeur. Il a inventé notamment le Tepaz, qui était l'arrière-grand-père de l'iPod, en fait, au fond. C'est-à-dire le tourne-disque avec les haut-parleurs dans le couvercle, avec les batteries. On pouvait aller pique-niquer en écoutant là. Et donc, je pense que ce serait probablement Édith Piaf ou Les Compagnons de la Chanson ou quelque chose comme ça, ce qu'il devait écouter à cette époque.
Et la musique que vous associez à votre père, Maurice Jarre, compositeur?
Je pense que c'est la musique du TNP, c'est-à-dire on parle souvent de mon père pour Laurence d'Arabie, pour Docteur Jivago, etc. Mais moi, la musique qui... Alors j'aime énormément, enfin Laurence d'Arabie est pour moi une des plus belles musiques de films qui a été faite indépendamment, en toute objectivité. mais indépendamment de ça, la musique qu'il a faite pour le TNP, pour le théâtre, puisqu'il était un des cofondateurs du TNP avec Jean Vilar, c'était la première fois qu'on approchait la musique de scène de cette manière-là, c'est-à-dire en faisant une musique vivante qui était presque en 3D à l'époque, presque avec les trompettes de Lorenzo Scio qui mettait dans le Palais des Papes en faisant jouer les musiciens tout autour de la salle. C'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais qui étaient complètement révolutionnaires et qui ont changé la vision, ou en tout cas la manière dont on conçoit la musique de scène.
Le disque dont vous êtes le moins fier?
Il y en a beaucoup.
C'est vrai?
Non, mais moi, tant que ça, parce que c'est pas vous possible. Savez, je vais vous dire une chose.
C'est une coquetterie.
Non, pas du tout. Je pense que, enfin, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est faux. C'était plutôt une coquetterie, ce que vous voulez. Mais non, c'est pas ça. C'est que je pense que moi, j'écoute pas du tout ce que je fais. Comme d'ailleurs beaucoup de musiciens. Je pense que ce qui vous fait avancer, je pense pour un créateur, quel qu'il soit, c'est ce mélange entre la frustration et l'espoir, c'est-à-dire la frustration de pas avoir fait ce qu'on voulait faire et l'espoir que la prochaine fois ça sera moins pire ou ça sera mieux. Et c'est cette espèce d'addiction qui vous habite, qui fait que vous continuez à faire ce que vous faites et pas autre chose en fait.
Alors on a entendu le son 2015, je voudrais qu'on revienne au son des débuts. On est en 1969, c'est un de vos premiers morceaux de musique électro-acoustique. Qu'est-ce qu'on entend là? On est en 69, non, on est en 68 en fait, Eros
oui.
Machine,
oui.
C'est du Jean-Michel Jarre, première époque.
Oui, oui, bah c'était effectivement purement électroacoustique. C'est l'époque où c'était avant les synthés, enfin en tout cas avant que moi je puisse en acquérir. Et puis de toute façon, même avant cette vague-là, il y avait la manière de faire de la musique qui a été vraiment inventée ici, dans cette maison. qui était le fait de pouvoir partir avec un micro et puis d'enregistrer le bruit de son chien et le bruit d'une porte, ce qu'a fait Pierre-Henri avec les chefs-d'œuvre qu'on lui connaît, et d'en faire de la musique. Donc là, ça ce qu'on entend là, en fait, c'est une boucle que j'ai faite d'ailleurs avec une bande magnétique, des ciseaux et du scotch. Et c'était en fait des lames de des limes à ongles. Des limes à ongles que je faisais vibrer au coin d'une table et que je ralentissais ou que j'accélérais pour faire ça. Et d'un mot, en fait, c'est le même système qu'on a utilisé pour le morceau qu'on a fait avec R sur Electronica. En fait, l'idée était de revisiter sur 80 ans à peu près toute la lutherie électronique. Et donc, la première boucle qu'on entend dans Close Your Eyes, là, le morceau qu'on avait avec R, procède du même principe que celui que j'ai utilisé dans ce morceau Heroes Machine.
On a une question pour vous de notre invité de la première heure, Denis Robert.
Il y a une question musicale. C'est moi, je suis fan de Kraftwerk et je voudrais savoir ce que lui, comment il inscrit Kraftwerk dans l'histoire de la musique électro. Est-ce qu'il pense que c'est des précurseurs? Enfin, c'est. Et la deuxième question est plus personnelle. Je voudrais savoir si vivre aux États-Unis, il choisit de le faire parce qu'il trouve que la France est trop dépressive ou si c'est pour des raisons fiscales qu'il est parti.
C'est Denis Robert, journaliste d'investigation.
Voilà. Alors, bon, comme beaucoup de journalistes d'investigation, des fois, ils font des investigations dans la même direction, parce que j'ai jamais habité aux États-Unis. Et j'ai tout payé mes impôts en France et je suis tout à fait content d'être ici.
Bon, voilà. Parfait. Première.
Je suis pas content nécessairement de payer des impôts comme chacun de nous autour de la table. Mais enfin, je me sens, et contrairement aux idées reçues, on paye plus d'impôts en Californie qu'en France. Il faut quand même le rappeler.
Et la question musicale.
Alors, Kraftwerk,
deuxième album?
Non, c'est-à-dire que Kraftwerk, d'abord, il n'y en a plus qu'un.
Ouais.
Et d'autre part, Kraftwerk, depuis des années, a comme dogme le fait de ne plus composer et de revisiter le répertoire
dans les musées. Fondations d'art.
Donc, c'est un concept, c'est-à-dire de rentrer dans le musée de leur vivant ou de son vivant, qui est un concept qui est intéressant mais qui n'a rien à voir avec le fait de collaborer à la... Et donc, par rapport à Kraftwerk, en tout cas, on a commencé en même temps, mais à cette époque-là, c'était bien avant Internet, évidemment. Et on n'avait pas, et moi je connaissais pas du tout Kraftwerk. La première fois que j'entends Autobahn, je pense que c'est un groupe californien qui chantait en allemand, et je trouvais ça tellement cool. Je me disais, mais c'est incroyable, parce qu'il y avait un côté Beach Boys techno comme ça dans Autobahn, et j'ai su après qu'ils étaient allemands. Donc on n'était pas du tout connectés, on s'est connectés plus tard, mais pas à cette époque-là.
Quel rapport vous avez, vous, justement, avec l'art, Jean-Michel Jarre? Parce que tout à l'heure dans le mix, vous citiez Soulage, vous citiez d'autres
Pollock. Oui, ouais.
Et aujourd'hui?
Vous voulez dire dans les artistes qui, ouais, pour moi, qui me plaisent, il y a Philippe Arénaud que j'aime beaucoup. Vous me parlez de l'art contemporain. Et j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu, donc j'en parle. C'est Les Désœuvrés. Ce nom arménien, je m'excuse auprès de l'auteur, j'ai un trou, mais c'est un très très beau livre. Et en fait, c'est un livre qui décrit une société dans laquelle la religion a été remplacée par l'art contemporain. Et vraiment, je le recommande beaucoup.
La personne qui a envoyé le tweet sur John Lennon pourrait faire la même chose.
Donc je demande justement l'aide d'un auditeur. Mais en fait, ce roman... Kebab Djian, et Aram Kebab Djian. Et c'est un très beau livre qui montre à quel point l'art contemporain est devenu au centre aujourd'hui de nos sociétés, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et c'est vrai que moi, j'ai hésité beaucoup entre la peinture et la musique, et notamment, j'étais très influencé, comme je me suis entendu moi-même il y a quelques années le dire, par l'abstraction lyrique et tout Hans Hartung, Pierre Soulages, etc. Tout ça, c'est d'ailleurs très proche de la musique électronique et la musique électroacoustique. Le fait de travailler la matière, les textures, c'est un peu la même chose. C'est un travail de cuisinier, qu'on fasse de la peinture abstraite, ce qui est étrange d'ailleurs, et qu'on fasse de la musique concrète.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard sur France Inter.
Jean-Michel Jarre, parce que vous avez tout au long de votre carrière entretenu des liens avec le monde spatial, vous avez rendez-vous tout de suite avec l'astrophysicien Christophe Galfard. C'est l'invité de Benoît Lagane.
Christophe Galfard, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, on vous doit ce best-seller, L'univers à portée de main, qui a paru chez Flammarion en juin dernier. Vous êtes même chroniqueur l'été sur France Inter. Je me posais une question, musicalement, quelle est la musique qui vous renvoie le plus à l'univers, justement, du cosmos, l'univers du spatial que vous travaillez quotidiennement?
Si je dis pas Jean-Michel Jarre, ça va pas passer.
Non, ça va pas passer. Alors en
Jean-Michel
deux.
Jarre, évidemment. Je vois pas qui pourrait y avoir derrière. Non, je n'ai pas d'idée. Non, mais trêve de plaisanterie. Mine de rien, ça tombe plutôt bien que je sois en face de vous aujourd'hui, parce qu'effectivement, jeune, écoutant votre musique, il y a quelque chose qui se rapproche d'un point de vue sensoriel, peut-être de sentiments, de tentatives de compréhension sans mettre de mots de notre univers en entier. Il y a quelque chose. Vous parliez, si vous me permettez de rebondir directement, vous parliez tout à l'heure de mélodie dans ces artistes avec qui vous travaillez aujourd'hui. D'une certaine manière, vous avez une sorte de chance d'avoir comme moyen d'expression la musique, qui permet justement de transmettre ses émotions à travers un langage universel. En science, au départ, on part un petit peu de l'inverse. C'est-à-dire que, effectivement, il y a la nature qui a son langage universel, qu'on traduit dans un autre langage, qui est celui des mathématiques, qui n'est absolument pas universel dans le sens personne ne le comprend. Il est universel dans le sens où tous ceux qui s'y intéressent parlent le même langage pour le comprendre, mais pour le transmettre derrière, chacun a sa petite mélodie à soi pour essayer d'en parler d'une certaine manière. Et votre musique m'avait touché dans ce sens-là à une certaine époque.
Alors si je peux rebondir d'un mot simplement pour dire que en fait la musique écrite, c'est un petit peu la même chose. C'est que pendant des années, si on a considéré que la musique était une musique savante ou élitiste, c'est parce que la manière de faire de la musique était finalement assez abstraite. C'est-à-dire qu'on faisait de la musique en écrivant des notes sur un papier. Il y a énormément de sur une partition. Il y a énormément de musiciens dans les siècles derniers qui ont passé leur vie à faire de la musique, à ne jamais l'entendre, puisqu'ils n'ont jamais trouvé d'éditeur qui pouvait imprimer leur partition, parce que ça coûtait cher, et puis de louer un orchestre. Et dans ce sens, il y a un lien avec ce que vous venez de dire. Et puis moi, je suis un grand fan d'astrophysique. Il y a un musicien célèbre que vous devez connaître, qui est Brian May, guitariste de Queen, qui est un docteur en astrophysique. On a toujours d'ailleurs un projet qui est lié son physique à l'observatoire des îles Canaries, donc effectivement il y a un lien, je pense, entre la musique, quelle qu'elle soit, la musique des sphères.
D'une certaine manière, il y a ce ressenti.
Quel type de projet vous avez?
Non, c'était un projet c'était un projet qu'on aura ensemble de se réunir pour faire un concert le lieu d'un observatoire qui est un des trois observatoires, avec celui du Chili, et puis il y en a un troisième que vous devez connaître beaucoup mieux que moi, je crois.
Mais il y en a plus que trois, vous voulez
dire? Non, mais les trois qui sont bien sûr, il y en a plein d'autres. Non, mais les trois les plus hauts, ou les plus où l'air est le plus pur.
Il y a le Chili, Hawaï et Canaries.
Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, donc j'avais pas complètement tort.
Benoît Lagane. Alors Christophe Galfard, vous avez été l'élève d'un célèbre astrophysicien britannique, Stephen Hawking. Vous avez planché avec lui sur les trous noirs. Vous avez suivi votre maître dans ses conférences. Et une conférence de Stephen Hawking, c'est un peu comme un concert de Jean-Michel Jarre. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Des conférences devant des milliers de spectateurs, 15 000, j'ai pu lire. Ça ressemble à quoi, une conférence de Stephen Hawking?
Alors c'est très amusant, parce que vous devez probablement avoir ça. Moi aussi, je donne des petites conférences en ce moment. J'en ai donné une dimanche dernier devant 2000 personnes. Alors j'entendais dans le taxi en arrivant que vous, c'était 2 millions. Je me suis dit, voilà, il y a quand même la marge. Mais effectivement, dans ces conférences de Stephen Hawking, il y a quelque chose d'hallucinant qui se passe. Je sais pas comment est vraiment le décrire, mais c'est le silence. C'est-à-dire, vous avez 15, 20 000 personnes qui sont là, des enfants, des adultes, un peu de tout, probablement des animaux aussi qui traînent. Et dans les instants qui séparent ces phrases, vu que lui ne parle qu'à travers son ordinateur, il faut qu'il enclenche les phrases, il y a des blancs. Et ces blancs peuvent durer 10, 15 secondes. L'air devient épais. L'air devient, c'est pas de la tension, c'est une sorte de concentration, tout le monde se retrouve uni par l'air qui devient presque solide tout autour, où tout le monde va boire les paroles qui vont arriver. Il y a quelque chose de magique, effectivement, qui se passe là-dedans. Je pense que la science a à voir avec ça, le fait de savoir la raconter génère ce genre de choses, et le personnage de Stephen Hawking le fait aussi. Je vous donne juste un exemple, peut-être, des premières conférences que j'ai données, où c'était pas autant de personnes, mais à un moment, je passe un petit film dans l'espace où on voyage à travers 400 000 galaxies. Les 400 000 galaxies les plus proches de nous. Pour vous donner une idée, une galaxie, c'est 300 milliards de soleils. Là, il y a 400 000 galaxies, on se balade à l'intérieur. Et j'avais dit au programmateur que je passerais ce film qui durerait 50 secondes sans rien dire, sans musique, sans rien. Alors tout le monde dit « Oh là là, ça va pas, le silence, c'est une catastrophe ». Au contraire, il y a quelque chose qui devient réel dans ce silence-là.
Comment est née votre passion pour l'astrophysique, Jean-Michel Jarre?
Bah, très tôt par mon grand-père, en fait, parce que mon grand-père était donc ingénieur et inventeur, et il m'a... Enfin, j'étais enfant, donc les préceptes, les principes dont il me parlait étaient adaptés à mon âge. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je pense que c'est lié aussi cet air dont vous parlez, chargé quand Stephen Hawking parle, quand vous faites des conférences vous-même. Je pense que elle est liée aussi à cet appétit du futur. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui dans les mathématiques et dans l'astrophysique qu'on retrouve finalement cette vision qu'on avait. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique dans les années 70, on avait cette espèce d'appétit et on avait une approche romanesque du futur. Et on se disait, après l'an 2000, le système éducatif va fonctionner un peu mieux, le système social, le système politique, un peu à la manière du comte de Champignac, les voitures vont voler, etc. Et donc, il y avait en même temps ce côté, en même temps, un peu bricolo, mais en même temps, plein d'espoir. Puis l'an 2000 est arrivé, et finalement, c'est comme si on était devenu orphelin de notre futur, qu'aujourd'hui, les héros... Les super-héros sont les héros de Marvel qu'on recycle en numérique, qui sont des héros des années 40. Et au fond, les seuls qui portent en eux le germe de cette vision du futur pour le 21e siècle, c'est vous, les astrophysiciens.
Et les scientifiques en général, bien sûr. Enfin, la recherche en général. Il y a une chose peut-être sur laquelle je serais un petit peu plus optimiste que vous, c'est que moi, je ressens dans la population globale, justement cet appétit
de
futur, de changement, d'enthousiasme par rapport aux découvertes qui seront.
Ah, je suis d'accord, je me suis sans doute mal exprimé parce que en fait c'était le fait justement que les gens ont ce besoin, mais qu'on l'a un petit peu perdu dans la manière dont les médias parlent du futur, dont la société charrie plutôt une vision anxiogène du futur.
Là, je vous suis totalement.
Plutôt que l'inverse.
Ouais. Et le rêve et la joie sont aussi puissantes, si ce n'est plus puissantes que la peur.
Merci à tous. Jean-Michel Jarre, Electronica Volume 1, c'est sous le label Columbia. Christophe Galfard, L'univers à portée de main, c'est aux éditions Flammarion.